Alors, on a machioti amrouba, parce que là, au début du septième vers, le problème, c'est oui, comment ça se fait que les maîtres du Talmud ne font pas preuve d'humanisme, mais d'amour pour chacun de l'humanité, etc. De plus, ces gens pleins de bonnes midotes, en vérité, qui dégoulinent de bonnes midotes. Amrou, qui tiknou chorme Israël betifilotéem, devarim shena roïm atchiaf keneged amalchou dibou. Que les sages d'Israël ont institué dans leur prière des choses qui ne correspondent, qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas convenables. Même, ils ont parlé contre la royauté, parce que vers Malchut Arisha, Bemerat et Aker, Vechaber, Temager, Vechoule, Vechoule. Donc, Veimaya Davar. Alors, ça c'est, il dit, donc c'est pas joli, ça quand même. Voilà. Veimaya Davar, Kemo, Shechashvu M. Si la chose eût été comme ils le disent eux, Aya Davar, Ze Soter Divre Atzmam. Cela serait une contradiction interne aux paroles des Rachamim qui bracha zot shiklala taminim shuel akatan tiken ota beyavne lifne Rachamim kelita beperek tfilat hashachar. Parce que c'est, nous savons que les 18 bénédictions, en vérité, c'est pas 18 mètres ruban.
Sur un arbre perché, tenez dans.
Ce n'est pas en vérité. Ce n'est pas, en vérité, ils se préparent pour Halloween.
Les avocats, même en pyjama, ils mettent le...
mettent la veste.
La veste.
La robe, ça s'appelle. Voilà. Donc, si en vérité, on recentre, monsieur, si en vérité, nos maîtres... en vérité, c'est Shmuel HaKatan qui a institué la 19e bénédiction contre les hérétiques. Comme on voit, Daf Kaftet dans Maseret Brachot. Are Mishna Berura Shemora Be Maseret Avot. Or, nous savons bien que c'est une Mishna explicite dans le traité Avot. Ave Mitpalel Be Shloma Shel Malchut Shel Male Moraa Ishetre Eu Chaim Balaou. Prie pour la paisibilité de la royauté, que s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, un homme, son ami vivant, il l'avalerait.
Son semblable.
Son ami.
Ah, son ami.
Son ami.
Ah ouais,
son ami.
Plus que son semblable.
Son ami. Yadoua. Kima shamro avemit pale beshoma shemalchut. Et la kavana shemal à malchut Israël. Quand on dit prie pour la royauté, ce n'est pas la royauté d'Israël. Shimkel lo ayatzare la tête tam shilmale mora. Parce que sinon, tu n'avais pas besoin de dire. Donner une raison chez le malé mora et chez trop chaïbalou. Chez le malchut d'Israël, yeshlou il palais chez Shalom malchut kiom chez Israël parce que la paisibilité d'Israël, de la royauté d'Israël, c'est la paisibilité du clan d'Israël. L'amshir shlomam, gdoulatam, romemutam, vatslachatam. Qu'il y ait une pérennité à la paisibilité d'Israël, sa grandeur, son éclat, sa réussite. Le cas, Maché Amrou avait mis le palais, mais Shloma, Shel Malchut. Donc, indubitablement, quand ils disent de prier pour la royauté, la paisibilité de la royauté, c'est-à-dire, c'est les royautés qui ne sont pas juives. Vimken, Eritaknou et Ferzé. Donc, cher ami, comment peux-tu dire que Shmuel HaKatan, comme l'Agmar a dit dans Maséchet Sanhedrin, que Shmuel HaKatan, il aurait été au niveau. Que la Torah eût été donnée par lui. Donc, il était au niveau de Moshe Rabbeinu. Donc, comment peux-tu te dire qu'il irait contre la Mishnah ? Velo Zebilva, Drak Shaya Neked Akatouf. Et d'autre part, c'eût été contre le verset, Mashu Zanou Aliede Nevim, Sheshlenu Nipel, Beshalom Amalchut, Asher Iglinu Shama. Parce que les versets nous disent de prier pour la paisibilité. Donc, on doit prier pour la bonne santé de François Hollande.
Tout à fait.
Prière pour la République française.
Voilà. Alors, chez Hachem, Yarum Odo, qu'Hachem grandisse son éclat et sa grandeur. Voilà. Qu'il puisse payer un meilleur scooter. Maintenant.
Franchement, moi, je trouve qu'il a, été classe. Hein.
Comment ?
Tout le monde, il y a 4% de satisfait, mais il a fait ce qu'il a pu. Hein,
mais dans les 4%, il y a lui et moi.
Mais t'as vu les circonstances ?
Non, moi,
il a fait ce qu'il a pu, le pauvre.
Moi, je trouve que c'est un type très bien. On y va. En tout cas, quoi qu'il en soit...
Il est brave.
Non, je dis ça parce que, vous savez, il y a des gens, parce que là, je mets en ligne... Et c'est incroyable, les gens de personnes qui me disent qu'ils écoutent les cours. J'ai appelé un mec là aujourd'hui, il m'a dit que tous les soirs, il écoute les cours qui sont en ligne. Alors, je ne savais pas, je n'avais même pas l'idée Bichlal. Ouais. Donc peut-être que François Hollande, il écoute nos cours. Donc il faut...
Ça n'existe plus, c'est autre
chose. Donc il faut lui dire qu'on est avec lui. On est avec lui et que Khazak, on y va. C'est écrit par le prophète Jérémie. Kouamar Hashem Tsevakot Eloke Israël et Kolagola Shirlitim Yerushalayim Babela. Ainsi a dit Hashem Tsevakot, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, installez-vous, plantez des jardins, mangez leurs fruits, prenez des femmes, ayez des enfants, des garçons et des filles, mariez vos enfants. Et Verabusham, Vatimatu, ne vous restreignez pas de prospérer et recherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai exilé et priez pour elle vers Dieu, qui Beshloma Yelachem Shalom, car par la paix de la ville où je vous ai exilé sera pour vous la paix. C'est magnifique, en vérité, c'est beau comme un verset.
Non, mais c'est-à-dire que la prière pour la République française...
Non, mais ça...
C'est... Jérémie, non, laisse-moi avec la prière de la... fais-moi plaisir. Laisse-moi avec ça.
Non, mais j'avais une avamina de dire que c'est quelque chose qu'on a inventé parce qu'il le fallait. On voit que c'est dans le passé.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Laisse, ça c'est de l'institution, c'est du protocole. Laisse les protocoles. Là, c'est de manière plus profonde. Tu restes dans l'anecdotique et il faut aller plus loin que l'anecdotique. Laisse-nous avec la prière de, on s'en fout. Moi, depuis que je suis, quand je vais dans des choules, je vais dans des choules, on fait pas ça, et je m'en porte très bien, d'accord. Alors, on laisse. C'est pas ça le sujet.
Malgré tout, il faut le faire. Enfin, il faut prier pour le shalom.
Il faut prier pour le shalom du pays où on est. Voilà, ça veut dire tout à l'heure. Dans je sais pas si t'as fait Maariv. Tu vas faire Maariv. Tu vas prier que ça se passe bien, que tu sois dans un pays paisible. Et que tout se passe bien, qu'il y ait une prospérité, que les gens soient contents. Et ça, il faut le faire. Voilà. Indépendamment de la prière, on s'en fout.
C'est la versée du Navi.
Voilà. Ça, mais regardez. Non, mais c'est magnifique. Non, mais c'est plus que ça. Mais il te le dit. Yirmiyahu Kaftet.
Yirmiyahu.
Voilà, mais c'est magnifique.
En plus, c'est le prophète de la...
De la Kata. Mais c'est magnifique. Il te dit, vous êtes en exil. Mais ne vous limitez pas à prospérer. C'est pas parce que vous êtes en exil qu'il faut avoir le bourdon. Ouais, prospérer,
planter des jardins.
Ne pas bénir le pays dans lequel on est en exil, ça serait une révolte contre Dieu.
Ouais, c'est absolument. C'est-à-dire, ok, arrêt qui regardez le verset. Qui bishloma yelachem shalom, car dans la paisibilité du pays où vous êtes sera pour vous shalom. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quand les connards ils disent que nous, les Juifs, on est communautaristes, c'est complètement n'importe quoi. On a été éduqués. Je pense chacun d'entre vous, et je m'inclus dedans, on a été éduqués à être loyaux par rapport au pays dans lequel on est. On est éduqués comme ça. C'est strictement n'importe quoi. C'est un faux. Il faut savoir, c'est un faux. Et seulement, on comprend très très bien qu'ils tiennent ce langage parce que nous, on a été éduqués à faire partie, même si on est des juifs religieux, on est des juifs pieux, etc. On est loyal et partie prenante même de la société dans laquelle on construit la société dans laquelle on est. On continue. Mais hérite que nous, et faire zé, chazvé shalom, l'avoir d'ivré à Navi. Comment donc y aurait-il une institution du contraire ? Pour transgresser les paroles du prophète. Adraba, et bien au contraire même, Iziro, Tanul, Haramim, les Kabel, Adenu, Malchut, Mamchelet, Aumot. Bien au contraire, nos maîtres nous ont enjoint d'accepter la royauté,
et le pouvoir des nations maintenant que nous sommes en exil. Achar chez Gazar, Hashem Itbarar, chez Nietarat Reshutam. Une fois qu'Akajoura a décrété que nous soyons en exil sous les nations, Raoui allez-nous, les Kabel Mamshalatam, c'est légitime que nous acceptions leur pouvoir. Mais chez l'eau, les Vatel Akzera, de pas se révolter contre les décrets de Dieu. Et c'est là que nous allons voir l'Agmara Kouf Yud Alef dans Maseret Ketubot. S'il te plaît, ne fais pas de polémique, parce que ça... Non, je t'en supplie, sinon j'arrête à la seconde. Je me tire. Tu fais une phrase de polémique, je me tire. Que les choses soient claires. Je n'ai pas les nerfs pour faire la polémique. Alors, donc, c'est sur la Mishnah, Kofio d'Almoud Bet. C'est la Mishnah qui termine le traité Ketubot. Entre parenthèses, sur laquelle j'ai fait un long développement dans le livre Le Désir des Désirs. Je ne sais pas si vous avez vu, à la fin du Désir des Désirs. Sur cette Mishnah, j'ai fait un grand développement.
L'annexe avant.
Oui, l'annexe à l'intérieur de ça. Parce que dans un couple, c'est la dernière Mishnah du traité Ketubot nous dit que si un couple est marié, le mari veut aller habiter en Eretz Israël. Et la femme ne veut pas. La femme veut habiter en Eretz Israël, le mari ne veut pas. Et qu'il n'arrive pas à trouver un accord, un dénominateur commun, il n'arrive pas, eh bien, c'est une raison légitime de rupture. Et que si c'est la femme qui veut aller, le mari doit donner un guet et payer la ktouba. C'est la femme qui veut aller, et le mari ne. La femme qui veut aller. Oui, non, c'est le contraire. Le mari veut aller et la femme ne veut pas. Lui, il la divorce et elle perd sa ktouba. Alors, le sujet, pour synthétiser, ça pose un problème parce que pourquoi y a-t-il. Quelle est la notion d'aller habiter en Eretz Israël ? Alors, l'imbécile qui est en nous pense parce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Or, Maïmonide ne dit pas qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et d'ailleurs, la Braïta ensuite dit qu'ils habitent en Eretz Israël, lui ou elle veut habiter à Jérusalem, eh bien, c'est le même sujet. Or là, même d'après ceux qui diraient qu'il y aurait une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, il n'y a aucune mitzvah d'habiter à Jérusalem. Donc le sujet est le suivant, si je peux me permettre. C'est que dans un couple, il faut être en phase sur l'investissement principal de son existence. Si on n'est pas en phase sur, je dirais, l'aspiration profonde de qu'est-ce qui se trame dans la vie, alors c'est une cata. Il faut arriver à trouver le c'est-à-dire, le habitant en Eretz Israël, c'est se rapprocher de Dieu, c'est vivre une plus grande proximité avec Dieu. C'est pas qu'il y a une mitzvah, il y a pas, si vous voulez, c'est pas une mitzvah en tant que telle. T'as une mitzvah de faire Birkat Hamazon, j'ai une mitzvah de faire Shema Israël. Maintenant, comment ? Non, c'est pas un kollel. C'est la base, c'est l'aspiration de son existence. C'est comme, il y en a, la base de ma vie, c'est d'étudier la Torah. La femme, elle n'arrive pas à comprendre ça. Bon, ça veut dire, il faut qu'ils arrivent à se comprendre. Je veux dire, sinon, c'est... Bon, lui, il aime les chansons de Gainsbourg, elle ne supporte pas. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, c'est l'occurrence, c'est mon drame. Mais...
S'il y a ça, ça va, c'est jouable.
Moi, ça me fait toujours rigoler. Vous savez, il y en a, ils mettent des petites annonces Ouais. Aime les chansons de Jacob Shvecki. Ça veut dire, ça veut dire, c'est pas là-dessus qu'on se marie. Je veux dire, c'est aime les romans de Houellebecq. Non, ça veut dire, ça n'a aucun rapport. C'est pas ça un couple. Non, c'est important parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ça. Mais bon, il y a des choses importantes. C'est dans quoi on s'investit dans la vie. Il y a dans un couple, il y en a un des deux. Il veut se rapprocher de Dieu, de servir Dieu. Et l'autre, ils ne sont pas en phase. Bon, je ne sais pas, peut-être ils peuvent prendre 20 ans, 30 ans pour se comprendre. Mais ils n'arrivent pas à se comprendre, in fine. Ça peut être un cas de divorce. C'est ça ce dont ça parle. Mais il n'y a pas, c'est pas une mitzvah stricto sensu. C'est pas une mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose finalement de partiel. Une mitzvah, là, c'est une aspiration, c'est pas la même chose. Ok. Alors maintenant, regardez en bas, Koufioud Amoudbet. Rabbi Zira, avec Amishtabin Miné des Rav Yuda, des Baé, les Misak, les Retzrel. Rabbi Zira, il essayait d'échapper à Rav Yehuda parce qu'il voulait monter en Eretz Israël, pour habiter en Eretz Israël. Or, ils étaient à Babylone, ils étaient à Babel.
Il n'y avait pas d'obligation.
Dama Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda dit « Kolaole me Babel, l'Eretz Israël au verbe assez. » Parce que Rav Yehuda dit « Celui qui monte de Babylone pour aller en terre d'Israël transgresse une mitzvah positive. » C'est assour, il pense. C'est assourd d'aller en Eretz Israël. T'es à Babel, t'es à Babel. Comment ?
Juste de Babel ?
On va voir, on ne sait pas. Chez Nema, Babela yuvaou veshama iyu ad yom pokti otam neum Hashem. Bon, en vérité, ça c'est un pasouk d'un prophète, c'est le prophète Jérémie. Or, eux, ils sont après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Mais c'est-à-dire que on a été exilé là-bas, on doit y être jusqu'à nouvel ordre. Voilà.
Ouais, c'est pas parce qu'il y avait un gros niveau de Torah, non ?
Oui, attends, on va voir. Voilà. Regardez. Tosfot. Babela yuvaou veshamayu afalgav daikra begalut rishon ketiv. Bien que ce verset de Jérémie parle du premier exil, et eux, ils sont après la destruction, Yeshoma de Begalut Sheni Nami Kapitkra, il faut dire que dans le deuxième exil, le verset met l'accent aussi là-dessus. Alors regardez.
Construire le premier temple à l'époque de.
Bah, ils ont eu la Pekida, ils ont eu, les prophètes sont venus en disant voilà, c'est le moment.
Il
y a un ordre explicite. D'accord. Alors, regardez le la lettre P, oui, tu vois
en bas.
Oui, Kolaole.
Oui.
P, Maimonide, Perek Ramishi, Melachim, Alacha, Yudbet. On va regarder ça.
Comment tu sais que c'est Maimonide ?
Regarde, tu sais pas chercher les trucs dans la Alacha. Quand tu as une petite lettre là, ouais. Tu vois, oui, la lettre P,
oui.
Tu prends ta souris, tu cliques et ça va là.
Oui, d'accord.
Maï, c'est pas une marque de moutarde. C'est Maïmonide.
C'est pas un Amora.
Ah, déchaîner les mecs, déchaîner.
Ah bah attends, tu le.
Perek Ramishi, Alakha Yudbet. D'accord.
Ah ouais.
Oui,
moi aussi, je n'utilise pas ça. On est là pour ça, hein. Maïmoni, Pereke, Melachot, Melachim. Alakha Yudbet.
Alors, je vais demander le programme. Donc c'est à la fin. À la fin. Tu l'as, Habibi ? Voilà. À la fin d'Alachot Melachim, c'est le dernier chapitre donc, du Mishneh Torah. Perek Ramishi. Alacha Yudbet.
Les lois des rois.
Les lois des rois. C'est bon, tu es.
Je suis avec Perek.
Perek Ramishi. Non, Perek He. Alacha Yudbet. C'est bon.
Perek,
il y a mon fils Neria là, qui a 9 ans. L'autre jour, on va à la choule ensemble, à pied. Là. Il dit, papa, moi je crois que tu fais du kérouf. Tu sais que c'est du kérouf ?
C'est trop mignon.
Tous les rabbins, ils font du kérouf.
Pas tous.
Non, mais bon, chez nous,
d'abord,
c'est un
pas
peu...
tous.
Attends.
Des carèves rapprochés.
Ah, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça ? Il dit, parce que des fois, quand tu fais un cours, tu dis Maïmonide, Narmanide.
C'est fin.
C'est magnifique.
Il est bon, hein ?
C'est pur. C'est beau.
Elle est bonne.
Vas-y, écoute bien, en tout cas.
C'est drôle. C'est vraiment une blague. Alors, on y va. C'est quoi du kiroub ?
Dire Maïmonide, Narmanide.
C'est excellent. On y va. Léolam, Idor Adam Beretz Israël, Afilou Beir, Shiruba, Ovde Koravim ou Mazalot, Validor Bechutz Laretz, Afilou Beir, Shiruba Israël. Que l'homme toujours habite en terre d'Israël, même dans une ville dont la majorité sont des gens idolâtres, et n'habite pas hors d'Israël, même dans une ville dont la majorité des gens sont Israël. Regardez. L'argument, chez Kol Ayotse les routes l'arrêtent, qui nous envoie d'Avodazara. Parce que, en vérité, tout celui qui sort routes l'arrêtent, c'est l'Agmara, non, c'est l'Agmara juste là. Mais laisse avec Narmanide. Oh, c'est l'Agmara, tout de suite. Parce que toute personne qui sort hors d'Israël, c'est comme s'il faisait Avodazara, Shinema, qui Gershuni Ayom, Istapea, Benachalat Hashem, les morts, l'air Avod Elohim Acherim. C'est le David Ameler qui, à un moment, a dû sortir Chutz Laaretz parce qu'il était poursuivi par Shaoul. Il dit, ils m'ont forcé à sortir de m'accrocher, moi qui étais accroché à l'héritage de Dieu en me disant, va servir d'autres dieux. Alors, évidemment, les commentateurs expliquent. C'est l'explication simple. C'est que chaque terre et sous chaque terre, et sous l'emprise d'un malach, d'un sar, et que même si tu sers Dieu, Hachem, même si tu sers Akadosh Baruch Hu, quelque part, t'es obligé d'inclure, par exemple, nous les Français, on a un type, un juif français, tu vois, tout un juif français, un juif anglais, un juif américain, c'est Sofen, etc. Un juif allemand, un prussien, etc. Et un russe, machin. Donc, on est, qu'on le veuille ou non, sous l'emprise, on ne sert pas à Kadosh Baruch Hu directement. Donc, même si tu es dans une ville qui sont complètement des juifs, c'est des juifs anglais, c'est des juifs américains, c'est des juifs français, c'est des juifs marseillais. Voilà, etc. Tandis qu'en Eretz Israël, il n'y a pas le sar. Et voilà. Continuons. Mais pour un ouyot ou Omer, Veladmat Israël, lo yavo ou. Et d'ailleurs, pour maudire quelqu'un, on dira « Dans la terre d'Israël, ils n'arriveront pas. » Donc on voit que c'est une malédiction. « Keshem shasur latset ma'aretz lechutz la'aretz » De la même manière que c'est interdit de sortir de la terre hors la'aretz, c'est-à-dire que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il n'a pas le droit de sortir. Alors ça, c'est un des points, si vous avez lu le texte à la fin du Désir des Désirs, c'est un des points centraux. Quelle peut être la source de ça? Ça veut dire, on ne te dit pas qu'il faut habiter en Israël. On te dit qu'une fois que tu habites, tu n'as pas le droit de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière qu'on n'a pas le droit de sortir de la terre, Koutzlaret, car à Sour, la Tsène, mais Babel, Neshar, Aratsot. De la même manière, il est interdit de sortir de Babylone vers les autres terres. Shenema, Babelayou, Vaou, Veshamayou. Est-ce à dire que Maïmonide voudrait dire qu'on n'a pas le droit de sortir de Babel pour aller en Eretz Israël? Oh, ça veut dire, on sait bien.
Vers les autres pays.
On sait bien que Rambam ne dit jamais rien sans une source textuelle dans le Talmud.
Ah ben alors voilà, ben sa source c'est chez nous, dans Ketubot, non?
Il en fallait un.
Ah, j'ai rien dit de polémique, j'ai juste essayé de comprendre.
C'est tout à ton honneur.
La source là, c'est bien la Gemara dans Ketubot.
Certes. Mais la lecture simple,
est-ce que ça inclut Eretz Israël ou c'est tous les autres pays?
Si tu vois la source de Maïmo,
c'est
de la source de Maïmo, là-bas, Rav Yehuda, il dit on n'a pas le droit de sortir de Babylone pour aller en Eretz Israël. Mais quand, disons que tu ne connaisses pas la Gemara, tu vois Maïmo, on dirait que de la même manière que tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël ailleurs, de même manière, si tu es à Babylone, tu n'as pas le droit de sortir. Mais aller en Eretz Israël, oui. C'est ambigu. Mais si tu connais la Gemara, il te dit que... Parce que c'est un autre problème. Ici, il y a une pekida, il y a un ordre de Dieu. Un Dieu, vous savez les mecs, vous n'avez plus le mérite d'être en Eretz Israël, je vous amène à Babylone. Il faut être à Babylone, on a des choses à faire à Babylone. Comme le mec, moi je te donne une mission et tu te barres. Ça passe niche, ça se fait pas. Tu avais une mission, il faut la faire. Tu te barres de la mission, c'est pas un bon truc. Alors maintenant, mais Rambam, il a l'air de dire... C'est ambigu. Qu'est-ce qu'ils disent les...
Déjà, son chien à Ratzot, ouais. Est-ce que c'est les autres pays, y compris Eretz Israël, ou les autres pays? Comment tu vois des mots là, c'est pas...
Justement, Israël est à part. Il y en a deux qui sont à part, Babylone et Eretz Israël. Et après, il y a les autres pays.
Regardons Kesef Mishneh, si vous le voulez bien. Kesef Mishneh, qui est...
Le Rabbi Yosef Karo.
Voilà. Alors, Keshem Shasur, de même manière que c'est interdit. Sham Koufioudel, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Ah, la référence, c'est pas Koufioud Amunbet, mais c'est Koufioud Alef. C'est là, Rabibi. C'est là. C'est pas. C'est là. Koufioud Alef Amoud Alef.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. C'est là. Hein. Donc. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Keshem Shasur Latzen Meretz Israël et Babel. Car Asur la Tsem et Babel Sharatsot.
Keshem Shasur la Tsem Meretz Israël les Babel. Car Asur la Tsem et Babel Sharatsot.
Ah!
Rashi, les fiches et Sham Yeshivot, Amar Bitsot Torah Tamid.
Voilà.
Ah! Donc c'est pas. Regardez. Oui! Mais Maïmonide!
Mais donc c'est plus l'argument du verset de Yirmiya.
Je fais du kirouf ce soir.
Jérémie, alors, il faut pas dire Yirmiya, il faut dire Jérémie.
Rambam, Rambam. Il faut le mettre au piquet. Parce que là, Rav Yehuda Amar Shmuel, il rapporte pas un passou. Rav Yehuda, il argumente à titre de... L'argument, c'est qu'il y a le décret de Dieu. Mais Rav Yehuda dit au nom de son maître Shmuel un autre.
argument qui n'a rien à voir.
Qui n'a strictement rien à voir. C'est de la même manière qu'on n'a pas le droit de sortir des Eretz Israël Chutz Laretz. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, ça veut dire, t'es là dans le palais d'Hachem, t'es dans le palais d'Akash Bokhou. Ça n'est pas toujours facile d'être dans le palais d'Akash Bokhou parce que tu tiens un carreau. Des fois, t'as envie d'aller au club même. Je te dis non. T'es dans le palais d'Akash Bokhou, on ne sort pas du palais d'Akash Bokhou. On ne va pas. C'est infamant quand même. C'est baisser le niveau. J'aimerais un peu baisser le niveau. Non. J'ai dit non. Alors, et de la même manière. Mais t'as pas le droit d'aller à Israël à Babel. Il te dit, t'as pas le droit d'aller à Israël à Babel. Pourquoi ? Parce que t'es dans le palais du roi. À Babel, c'est la succursale. D'accord ? Si t'es déjà à la succursale, tu ne sors pas à la succursale pour aller ailleurs. D'accord, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec le verset. Babela, Yovaou, Veshama, Yu. Ou là, ça a l'air d'être, c'est le décret de Dieu.
Babela, Yovaou, Veshama, Yu.
Maïmonide, il a Rambam, excusez-moi. Ouais, Rambam. Il a emmêlé les pinceaux. Ça, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que.
Veal, Admat, Israël, Lo, Yovaou.
Qu'est-ce que tu nous amènes ?
Non, voilà, ok, j'aime ça. J'aime chez Assour la Tset Meret Israël, car Assour la Tset Mibabela. Donc tout le monde va être
ce qu'il a. Quel balagard.
Shemar Bebela, Yuvaou, Shamayou. Ouais, c'est vrai que c'est.
C'est quoi ?
Bah, c'est un peu compliqué. Là, c'est, ça correspond pas. Ça correspond pas.
Ça correspond pas. C'est toujours comme ça. Il a... Moi, je dis, j'ai une thèse qui n'est pas scientifiquement fondée. Je pense que Rambam n'a pas eu assez de fessées quand il était enfant. Et après, c'est
un peu
écervelé. Après, tu vois, un enfant, on lui laisse faire tout. À la fin, ça se rend. Même dans la Ramba, même dans la Talmud, il fait ce qu'il veut.
Bon,
il faut mettre des limites à nos enfants.
Au Maroc, il était cadré. Ça voilà. Marchait à la baguette.
Est-ce que donc, le premier, là,
à Fès, là-bas.
À Fès.
Kolaolemi, Bavel, Eret Israël, au verbe Erassé. Donc là, c'est spécifiquement celui qui parle de Bavel en Eret Israël. Ça, c'est le premier.
Ça, c'est le premier.
Et le deuxième, c'est les Shehar Aratzot.
C'est les Shehar Aratzot. C'est un autre problème. C'est que Akash Bokhou a eu pitié, si vous voulez. Akash Bokhou, il a eu pitié d'Am Israël. Il a fait qu'il y a des galoutes. Par exemple, le mec, il se trouve à Brooklyn. Et il se trouve à Brooklyn, il dit, oh, j'en ai marre des feuges, le tchoulint, le coup d'oie farci, j'en ai marre. J'aimerais aller à Bâton Rouge. Ouais, alors, t'as dit, bon, nishtazoï, repasse nishta, ça veut dire, ça va. Là, t'es dans le semi, la succursale du palais de Dieu. Je comprends que c'est pas toujours facile. Je comprends, c'est pas toujours facile, mais quand même, un peu, il veut aller dans l'Arkansas, il veut aller dans le Montana, les grandes, les montagnes, les trucs. Ouais, c'est magnifique. Mais où t'auras ton shtibel pour faire mincha à n'importe quelle heure et même après la shkia, hein? Alors,
surtout après la shkia.
Alors, tu vas là-bas, dans le Wyoming. Ouais, tu veux des minche.
Il y a les bisons qui arrivent.
Ouais, c'est ça.
Il y a les bisons.
T'as les Iroquois qui arrivent pour te scalper. Alors là, on te dit, c'est pas ça. Mais Rambam, alors ça, c'est très... Alors, vous savez que... Vous n'êtes pas sans savoir que le Rabbi Yoel Tatelbaum a écrit un livre entier sur l'analyse de ces phrases-là. Hein. Un livre entier.
Comment il fait correspondre.
Ouais.
Mais c'est l'homme d'Ish.
Complètement.
Moi, oui. Il n'est pas dans le.
Tu me l'as même offert.
Oui, c'est vrai.
Tu me l'as même offert.
Mais c'est de l'analyse.
Ah, c'est complet. Complète. Et là, c'est du limoude de complète. Chaque nuance et des pages.
C'est vraiment.
C'est sur des pages et des pages. Comment ça se fait que Maïmonide, il a dit ça et patati, il rapporte cinq commentaires et machin. Et... Parce que c'est vraiment difficile. On a du mal à comprendre. On continue la Gemara.
Il arrive à trouver des cordes.
J'espère. Sinon, il est payé pour ça, le mec. On y va.
Travail, hein.
On continue. Quoi, Rambam, oui. Maintenant, la Gemara. Donc, Rav Yehuda, c'est deux concepts différents. Hein. C'est deux concepts différents. On ne sait pas donc très bien pourquoi Rambam rapporte le pasouk rapporté par Rav Yehuda pour expliquer Shmuel qui en a été un autre problème. Ok, continuons avec Mara. Donc Rav Yehuda, lui, il apporte le verset de Jérémie. Et Rabbi Zira, qu'est-ce qu'il fait du verset ? Et Rabbi Zira, Aou bekli sharet ketiv. Ça parle des objets du service du Beth Amigdash, qu'on dit Babela Yuvaou. C'est-à-dire que Nabucodonosor avait pris les objets. Et sache que Dieu te donnera, te donne la promesse. Ils seront là-bas jusqu'au jour où je déciderai de les ramener. Ah, donc finalement, ce verset n'est pas une preuve. Ce verset n'est pas vraiment une preuve pour Rav Yehuda. Rav Yehuda, Ketiv Kra Acharina. Il a un autre verset que dans le Cantique des Cantiques, que nous allons voir. Hein, que nous allons voir. Enfin, vous avez l'édition là avec le verset dans la marge, c'est écrit Shira Shirim Bet. Oui. Ishbati Etrem. Alors, c'est un verset qui fait peur. Oui. C'est un verset horrible en vérité. Oui. Ishbati Etrem.
Non, on lit ça le vendredi soir.
Alors, Ishbati Etrem. Je vous ai fait jurer, fille de Jérusalem. C'est quoi les filles de Jérusalem? C'est les nations du monde. T'as Jérusalem, c'est Israël. Et les filles de Jérusalem, c'est les Goyim. Bitzvaot, au Bayalot Asadé, avec les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne s'éveille lui-même. Ne forcez pas l'amour de Dieu. Il va venir, l'amour, il ne faut pas le forcer, il va venir. Et j'ai fait un pacte, dit l'Éternel, avec les biches et les gazelles, qu'il ne faut pas éveiller l'amour avant. Regardons. Rav Yehuda Ishbati. Etrem benot Yerushalim betzvaot bailot asadi. Rashi. On n'explique pas. Donc ça veut dire que l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment, Dieu il vous a envoyé au piquet, en exil. Mais il faut qu'il se calme un peu, il reviendra vers toi pour te ramener à la maison. Mais ne force pas. T'es là-bas, tu restes là-bas. D'accord ? Bien. Vera Bizira.
J'ai pas compris. Le passage qui s'adresse aux filles de Jérusalem, aux nations ou à Israël. J'ai pas bien.
Alors.
C'est pas les nations qui vont réveiller. Non. J'ai pas compris.
Ça veut dire. On va voir dans la Gemara Mitzvaot. On va voir. La Gemara va expliquer. Tu vas dire. La Gemara va expliquer. Pour le moment.
C'est les Juifs qui vivent dans les Benot Yerushalayim.
Tu vas voir.
La Gemara est terrible.
Tu vas voir tout de suite. Tu as déjà fait cette Gemara?
Non. Pas okay,
alors, regarde. Donc, Rabbi Zira lui dit ce verset, c'est. Rav Yehuda, il dit ce verset, c'est de ne pas monter de Babylone. Ça veut dire que tu es à Babylone. Tu poireautes, tu forces pas la situation. Dieu, il va revenir vers toi. Il t'a mis au piquet, t'attends. C'est une chutzpah de. Et les nations sont garantes de ça. Voilà. Mais Rabbi Zira, lui dit non. C'est pas qu'on doit rester à Babylone. Au contraire, il faut retourner en Israël. Et alors, de quoi? C'est quoi l'amour? L'amour. Qu'il faut pas provoquer l'amour. Shelo yalou Israël bechoma, que Israël ne doit pas venir en muraille. Regardez Rashi. Shelo yalou bechoma yachad beyad chazaka. On ne doit pas aller en Eretz Israël en groupe avec la main forte. Il ne faut pas
Il ne faut pas prendre possession d'Eretz Israël par la force. Que des individus peuvent monter en Eretz Israël. Il faut monter en Eretz Israël individuellement. Mais prendre possession d'Eretz Israël, c'est interdit. Ça, même Rabbi Zira.
Regardez, je vais prendre. J'ai pas le stylo.
Je vais essayer le stylo.
Ça ouvre des perspectives.
C'est ça le sujet. C'est-à-dire que le Ishbati et Trem Benot Yerushalayim Zehin ne réveillait pas l'amour. Ne réveillait pas l'amour. Alors, Rav Yehuda, il dit, t'as été mis au piquet. Il ne faut pas sortir du piquet. Sinon, il ne va pas être content. Attends, je te promets que celui qui t'a mis au piquet, il va t'appeler. Il va t'appeler que tu reviennes à la maison. D'accord. Bien. Ça, c'est Rav Yehuda. Rabbi Zira, il dit non. Revenir en Eretz Israël, c'est open bar. Open. Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est de venir en groupe. Yachad, Yad Chazaka. Ça, c'est ça, c'est ce Rashi-là. C'est ce Rashi qui est le Rashi névralgique. Voilà. Que même Rav Yehuda, Rabbi Zira, qui dit qu'il faut toujours aller en Eretz Israël, mais pas en groupe et pas avec la force. Voilà.
C'est Rashi qui dit ça.
C'est Rashi qui dit ça. Parce que chez Lo Yalou Bechoma, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Tu peux peut-être donner d'autres explications. Mais en tout cas, lorsque... En tout cas, je vous mets le contexte. À la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il y a eu, chez tous les grands maîtres de Torah en Europe, un éveil d'aller en Eretz Israël. Non, avant, une seconde. C'est-à-dire, les élèves du Baal Shem Tov, les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Khatam Sofer. Ça, c'était... Voilà. Mais c'était un niveau individuel. Un niveau individuel. 50 ans après, et il y a eu vers 1850, certains maîtres, dont Rav Tzvi Hirsch Kalischer, qui ont dit qu'il y a un éveil national. Et le débat a été sur ce rachat. Que même celui qui dit qu'il faut aller habiter en Eretz Israël, et ça, à la limite, tous les grands maîtres ont été pour et ont encouragé. D'ailleurs, il y a un des grands élèves du Gaon de Vilna, par exemple, les gens de Mea Shearim,
c'est
les élèves de Gaon de Vilna, et il y a un des grands qui s'appelle Rav Israël de Shkalov, qui a écrit le Peat HaShulchan, le premier, le Peat HaShulchan, c'est-à-dire le coin de la table, c'est-à-dire qu'il a fait un Shulchan Aruch de Alachot Luyot Baaretz, qui sont dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, mais de manière très réduite, mais il a très développé. Ça, c'était sous l'encouragement du Gaon de Vilna, et il y a eu aussi un sefer qui s'appelle le Kol HaTor. Le Kol HaTor, qui c'est qui a écrit le Kol HaTor? Une seconde. Qui c'est qui a écrit le Kol HaTor? Je ne me souviens plus. Peut-être c'est Rav Israël de Shkalov aussi. Mais Alpi Kabbalah qui développait la nécessité d'aller habiter en Eretz Israël. Mais ensuite, il y a eu l'éveil des nationalismes au 19e siècle. Vers 1850, tous les nationalistes polonais, russes, et vercolés, slovaques et machin, et bidule. Et il y en a qui ont dit qu'il faut aller en masse en Eretz Israël. Et là-dessus, ils ont dit, attention, Hartoum, écrit dans Rashi, non. Individuel, mais pas forcer la situation.
Ils ont barré sur Rashi, non ? Moi, ils n'étaient pas, ils se revendiquaient pas.
Une seconde. Le gros débat, c'est quelle est la portée légale à donner à ce passage ? Parce que tu peux dire c'est des Agadot.
Oui.
C'est un débat entre Rav Yehuda et Rabbi Zira, mais en quoi c'est vraiment halakhique ? C'est des Agadot. Des explications de psukim, de shir hashirim. En quoi c'est contraignant ? D'ailleurs, Rambam ne rapporte pas dans Shulchan Aruch. Et le Rif ne le rapporte pas. Donc, quelle est la portée de ce Mahamar ? Alors, ok, il y en a qui disent c'est halakhique, il y en a qui disent c'est pas halakhique. C'est des débats. Ok ? C'est des débats. Mais il faut connaître quand même ce passage. Ok ? Il y en a qui disent c'est halakhique, il y en a qui disent... Parce que, aussi, quelle est la base de la Haggadah ? La Haggadah, dire qu'il y a une césure entre ce qui est agadique et halakhique. Tu n'as pas le clignotant. Ici, c'est une Gemara, c'est Ktubot, c'est halakhique. Ma pitom, ce ne serait pas halakhique, tu comprends ? Et
surtout que juste avant, Rambam a rapporté. Voilà. Mais malgré tout, c'est étonnant que...
Voilà. Bon. Alors, c'est des grands débats, comme vous pouvez le comprendre. D'accord ? Bien. Mais, globalement, disons, tous les grands maîtres se sont opposés au départ au sionisme politique.
Sur
ces sujets-là.
Non, mais à part
comme,
sur cette page.
Alors, comme on va voir dans la suite. On continue. Je soulève, quel est le tokef à donner ? Surtout que le RIF, si je ne m'abuse, ne rapporte pas dans le... Passe-moi ta Ktubot, là. Non, mais il n'y a pas le RIF
non,
là-dessus.
C'est celle du bas, là-bas.
Voilà. Si je ne m'abuse, c'est pas rapporté ni dans le Roche, ni dans le RIF. Non, c'est pas rapporté dans le RIF. Oh, le RIF rapporte des fois des Agadot parce qu'il pense que c'est halakhique. Vous comprenez ? Ok. Continuons. Au niveau structure, donc, Rabbi Zira, lui, il dit... Rav Yehuda, lui, il a dit « Ishbati etrem benot Yerushalayim » c'est qu'on ne doit pas éveiller l'amour. Donc on ne doit pas partir de Babel. Rabbi Zira, il n'est pas d'accord.
Individuellement.
Il n'est pas d'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu fais du pasouk ? Il dit « Shelo yalou bechoma ». Bien, continuons. Mais Rav Yehuda... Alors, donc finalement, Rav Yehuda... Lui, il est en malus parce que finalement, il a réponse à tout, Rabbi Zira. Réponse non. Il y a un deuxième Ishbati Etrem que s'écrit deux fois. C'est même écrit trois fois. C'est trois fois dans le Shir HaShirim. Oui. Il y a c'est écrit une deuxième fois. Et Rabbi Zira, pourquoi c'est écrit une deuxième fois ? Aoum va y aller les quais des Rabbi Yossib et Rabbi Hanina. Dama. Lui dit, c'est écrit une deuxième fois, mais Mémé Habibi, c'est même écrit une troisième fois. Pourquoi ? Parce que Rabbi Yossib et Rabbi Hanina, il a dit, Gimel Shvot Alalu Lama. Pourquoi c'est écrit trois fois ? Achat Sheyalu Israël Bechoma. Une.
Comme Rashi.
Que.
Oui, comme
Rabbi Zira.
Ouais, comme
c'est Rabbi Zira, oui. Qui ne monte pas en force. Achat, Shishbia Kadosh Boro et Israël, Shelohim Redoube ou Motaolam. Deuxième, qui ne se révolte pas contre les nations du monde. C'est-à-dire qu'il comme on a dit tout à l'heure,
accepte l'exil.
Loyaux, voilà, qu'ils soient loyaux. Vous voyez par exemple, il y a en Pologne, au début. Du 19e siècle, il y a eu parce que la Pologne était coupée entre la Prusse et la Russie. Et il y a eu un mouvement en 1830, je ne sais plus exactement la date, d'une révolte politique nationale polonaise, bien, qui a été noyée dans le sang d'ailleurs. Les Juifs n'ont pas le droit de participer à des mouvements comme ça, politiques. de révolte. T'es en exil, tu dois pas.
Tu dois être parvé en exil.
Il doit être parvé en exil. Tu as fait un profil bas. C'est très, extrêmement important. Chez lui, Imredou, Bahoumot.
Pourtant, la plupart des Juifs, ils ont toujours été aux avant-gardes, aux avant-postes des.
D'accord, mais c'est pas. C'est pas
ils
des pieux.
Fait,
non, mais c'est interdit. C'est strictement interdit.
Rosenfeld aux États-Unis.
Non, mais c'est extrêmement.
Rosenberg.
Mais là, c'était rien de spécial, mais le c'est strictement interdit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des jeunes juifs qui se révoltent contre la tradition juive en disant que la tradition juive nous éduque à être des nuls. Voilà. C'était des problèmes terribles. Mais on est en exil et on ne doit pas, par exemple. Lorsque il y en a qui prennent des, par exemple, même lorsque il y a des juifs qui prennent des positions anti Marine Le Pen, etc., c'est idiot, c'est dangereux. Tu sais pas, peut-être elle va être présidente. C'est dangereux. C'est dangereux.
Ou anti Trump. C'est, le même
c'est dangereux. Dangereux parce que tu sais pas. Et nous on a des papiers mais à la limite. Voilà. Et ça il faut c'est ça. Alors bon, est-ce que c'est alakhi pas alakhi, on est bien d'accord. OK, continuons. Et troisième, Achal shejbia kashbu et ovde koravim shelo ishtabdu ba'em beYisrael yoter medaille. Et troisième, que Dieu a fait jurer les nations qui n'asservissent pas trop Israël.
Alors, trop qui n'asservissent pas.
Non, Yoter Medaille.
Pas plus. Trop.
Ah oui, Yoter Medaille, oui, j'ai oublié
pas plus
ça.
Qu'une mesure.
Israël, point, voilà. Yoter Medaille, j'ai oublié celui-là.
Alors, une seconde. Alors là, le qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas convoqué Isabelle la catholique, Hitler, Echmilnicki en disant bon les mecs, vous me jurez là
hein? Le...
Ouais, non. Alors ça veut dire que le Dieu a fait qu'il y a un équilibre global, que on est en exil. J'ai discuté avec quelqu'un qui était chez moi là, Yom Tov, qui était du Maroc, non qui était de Tunisie. Il nous dit, mais en Tunisie, les Juifs étaient pauvres. Mais on était des rois. On était des rois. On était les locaux, ils nous servaient. Non, ça veut dire, il y a toujours une dimension comme ça. Même lorsque les Juifs, ils étaient extrêmement pauvres en Pologne et machin bidule, eh bien, les paysannes polonaises, elles étaient les servantes des Juifs. Il y a un livre sublime, sublime. J'ai rarement lu un livre qui m'a tapé sur la tête comme ça. C'est Katerina de Aaron Appelfeld. Je ne sais pas, vous avez lu ce livre?
Aaron Appelfeld,
Tu as lu Katerina de Aaron? Non.
Le romancier israélien.
Ouais, mais j'ai lu ce livre. Il était inconnu au bataillon. J'ai emprunté à la bibliothèque il y a 20 ans.
Oh, j'ai lu ce livre.
Oh là là, Katerina, c'est ce thème-là. Que nous, on a toujours été très pauvres. Mais on est.
Mais avec une certaine position.
Mais une gloire. C'est prophétique. Alors, il y en a qui ont dit que lorsque les persécutions ont été trop terribles, on est dispensé de ces Shvuot. Il y en a qui ont expliqué comme
puisque
ça.
Puisque les nations n'auraient pas tenu leur serment.
Comment ? Oui, merci.
C'est plaisir de vous voir.
À qui ai-je l'honneur ?
Au fils du rabbi Bitton.
Tu t'appelles ?
Au fils du rabbi Bitton.
Ah, qui est là le Raphaël Bitton ?
Oui, excuse-moi, je suis désolé. Est-ce qu'il y a bien un rite qui s'est réuni à vous moucher ? Oui, je vous dérange pas.
Non, avec plaisir. Comment c'est ton prénom?
Arié
Houda. Enchanté. Ok. Alors, le
Donc, chez l'eau, il y a Israël et médaille. Donc, il y a trois Shvuot, et ça, c'est Rabbi Zira, suit l'enseignement de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Donc, il n'y a pas un verset qui reste sur le fait qu'on n'a pas le droit de partir de Babylone en Eretz Israël. Dans Rabbi Yehuda, il a un malus, avantage Rabbi Zira. On est bien d'accord ? Rav Yehuda, im ta'iru, vim toreru ketiv. Non, en vérité, c'est écrit, n'éveillez pas, ne réveillez pas, ta'iru. Éveillez, éveillez et réveillez. Parce que, tu vois, on peut être éveillé, mais encore pas réveillé, tu vois. On se comprend, hein. Là, c'est lourd. Là, c'est du... C'est...
À la période des slichotes, on voit très bien.
Hein, on peut être éveillé, mais pas réveillé. N'éveillez pas, ne réveillez pas. Des Rabbi Zira. Donc là, maintenant, donc il dit, tu vois bien que c'est doublé, donc ça veut dire, ne serait-ce qu'un éveil, t'as pas le droit. Et Rabbi Zira, il revient fringant. Oui, Rabbi Zira. Mais va y aller les quais des Rabbi Lévi. D'amar, chèche fois talalou lama.
Pourquoi
chèche? Bah oui, parce que c'est écrit. Chacune. Donc c'est embêté, c'est doublé, il y en a six.
Ah oui.
Chèche fois talalou lama. Tlata nede amran. Il y en a trois, celle qu'on vient de dire. Enar. Les trois, c'est les suivantes. Rabbi Isaï. Non, mais c'est un des passages clés du Talmud. Hein.
C'est vrai?
Oui, tu le sens chasse. Pas. Non, mais, bah ouais, non, mais c'est pas écrit, attention, best-of. Mais on le ressent, non. Je sais pas, moi, je ressens que là, on est dans le...
Il n'y en a aucun qui veut lâcher le morceau.
Non, mais là, on a les doigts dans la prise électrique du Talmud, là. On est dans... Voilà. Ina et l'autre. Shelo iglu et taketz. Shelo ichoku et taketz. Besho iglu et asod leof dekoravim. Il y en a trois. Une, chez l'eau, igloo et taquets. De ne pas dévoiler
la fin des temps.
Rashi.
Mais encore faut-il qu'on la connaisse.
Bah attends.
Non mais.
Chez l'eau, igloo et taquets.
Attends. Neviim chez Bnehem, les prophètes. Ça veut dire. Non, ils la connaissent, mais il ne faut pas la dire.
Donc, parmi les
alors, ça, non mais attends une seconde. Là aussi, c'est un point très grave parce que. Au fil des générations, il y en a qui ont dit voilà, l'année machin, ça va être 6 mois après le décès du grand rabbin Citruc, il va y avoir le Machiav, machin. Ça, on n'a pas le droit de. Non,
si non, on rigole pas. Si tant est qu'on le sache, oui, oui.
On n'a pas le droit. Or, c'est un problème parce que même Nachmanide, dans un de ses Sfarim, il a donné des dates. Même Ramban. À Gadol, chez Bagdolim, il a donné des dents.
C'est pas sur Rachid.
D'accord. C'est pas Rachid,
c'est le Mara.
Voilà, non, mais.
Voilà. Deuxièmement, regarde Rabbi Isaï. Chez l'eau, Ichaku et Taketz. De ne pas éloigner la fin. Rachid. Chez Ichaku et Avonam, par leur faute. On doit avoir conscience de ne pas retarder la fin. La fin de l'exil par nos fautes. La chaîne arrière, autre explication. Chez Loïd Recou, regardez, extraordinaire, Rachi.
On place le rech par un dalet.
Voilà. La chaîne d'Ochak, chez Loïd Irbou, Betachanouni, Malka, Yoter, Medaï. De pas trop prier pour la Géoula. T'as vu David? C'est grandiose. Non, mais là, c'est un passage, c'est le... Ça nous parle de trop, quoi. Chez l'Oyirbou, Betachanounim, Alkar, Yotermé. Il faut savoir, Rabbi Isaï, que Rachi est contemporain des premières croisades. Rachi, c'est pas. Il n'était pas. Pénard. Pratiquement tous ses maîtres ont été tués dans les premières croisades. Il est vrai que c'était vers la fin de la vie de Rachi. Mais pratiquement tous ses maîtres, parce qu'il était à Mayence, dans la vallée du Rhin, lui, il n'était plus dans la vallée du Rhin. Mais tous ceux qui sont restés dans la vallée du Rhin, ils sont morts. Toute sa famille et tout ça. Donc c'était pas... ça veut dire... on dit oui, mais il n'a pas connu ce que nos générations ont vécu. Si.
Il a vécu pire.
Je ne sais pas si c'est pire, mais... c'était pas bisounours. Chez Loïgalou Assot, qui n'a pas dévoilé le secret au Goyim. Regardez. Amrela, il y en a qui dit Sod Aïbour. Vamrela Sod Tamé à Torah. Il y en a qui disent, c'est le secret de l'année embolismique.
Ouais.
J'ai pas aimé ton bon. J'ai pas aimé.
C'est moins ésotérique. C'est à moins de semblerait que le la fin.
Bah, il semblerait qu'il y ait une chorma supérieure si on appelle ça sod.
Parce que le sod aïbour, si on appelle ça sod, c'est pas seulement des calculs. C'est seulement des calculs. C'est toute une conception du monde.
Ah ouais.
C'est toute une conception du monde. Qui en vérité la spécificité du Ham Israël. Moi, je peux vous dire.
Qu'on ne doit pas enseigner sur notre.
En vérité, le Sod Aïbour, c'est la spécificité du Ham Israël. Que le Ham Israël, il y a le. J'ai appris comme ça de M. Frankel à la Vache à l'Homme. Que nous, on est. La base de la vie juive, c'est le septième jour, Shabbat.
Et il a quand même pris comme référence... Oui, parce que Rabbi Shimon Omer, c'est écrit...
Les chrétiens, c'est le huitième jour. Ils sont déjà dans les temps messianiques.
Mais quand même,
et l'islam, c'est le sixième jour. C'est-à-dire, les chrétiens, c'est le progrès. C'est le huitième jour, c'est-à-dire... Eux, tous, c'est savent, c'est le progrès. C'est le progrès à tout craint. Les musulmans, c'est la tradition intangible. Il y a quelques années, j'avais regardé sur les sites islamiques musulmans la notion de innovation. Et sur tous les sites musulmans, pour eux, l'innovation, c'est la catastrophe. L'innovation, c'est-à-dire, c'est le sixième jour, c'est quelque chose de statique. L'âme Israël, c'est les deux. C'est à la fois l'innovation et la tradition. Ça, les goyim ne peuvent pas comprendre. Il y a une tradition. À l'intérieur de cette tradition, il y a une innovation constante. Les commentaires des Chachamim sont toujours appelés Chidushim. Mais c'est des Chidushim à travers d'une tradition. Ça, c'est un truc. Ça, c'est Sod Aïbour. Les nations, les Esav, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'énergie. On va de l'avant. On a amené le message à toute l'humanité, les temps sont résolus, ça va, c'est bon, on avance. Les musulmans, c'est la lune. La lune, c'est-à-dire, la lune, l'année lunaire, elle régresse. Elle est régressive. Et nous, on fait que ce qui est à la fois régressif soit coïncide avec ce qui est aussi le soleil. Ça, c'est Sod Aïbour. C'est un truc spécifique du peuple juif. Mais il y en a qui disent Sod Aïbour, Vamrela, Sod... Quoi ? Non, non, c'est bon, on est là pour échanger. Mais il y en a qui disent « Sod Tamé à Torah », le secret. On ne doit pas dire le fond de la Torah, on ne doit pas dire aux nations.
Si tant est à nouveau qu'on nous-mêmes, on sache quel est le Sod des Tamé à Torah, c'est déjà...
Okay, d'accord.
C'est
bon.
Non, mais c'est-à-dire que peut-être que cette chevoie s'adresse aux érudits.
Non, oui.
Cette chevoie s'adresse peut-être pas à tout le monde. Ouais. C'est comme le Shelo Igalo.
Ok, on y va. Regardez la suite, on y va, Rabbi Isaï. Regardez, nous, c'est pas du sod ce qu'on est en train de voir. C'est du sod. Le sod, c'est pas forcément qu'il faut avoir des grandes paroles qui remuent ton esquic le matin. Je veux dire, ça va. C'est du sod ce qu'on est en train de voir, non? Donc moi, j'ai l'impression qu'on est en train de voir du sod. On est là. On est dans le hard, le deep du Ham Israël dans ce qu'on est en train de faire là. C'est des trucs incroyables. On continue.
Donc je déjeune avec des collègues, on parle du sionisme. Je suis pas censé expliquer une Guémara par exemple, comme celle-là. Ou entrer dans le.
Tu comprends. Comprends. Ça veut dire que. Bon, on continue. La suite. Regardez la suite. Donc en vérité, Rabbi Zira, lui, il a une très, très bonne explication. Hein. C'est les six, elles sont bien expliquées. Bien. Alors maintenant, on n'a pas compris. Je bâti et trembitzevaot bitsevaot au bayalot asadé. Regardez, ça c'est la phrase qui est absolument atroce. Amar Rabbi Lazar. Amar lehem akadosh baruch hu l'Israël. Im atem mekayemim et hashvuot et hashvua mutav. Dimlav ani matir et besachem katsevaot kayalot asade. Si vous accomplissez ce serment, c'est bon. Sinon, je donne votre chair en pâture comme les biches. Comme les biches et comme les gazelles des champs, que les nations vous massacreront. De la même manière que quand on va à la chasse aux gazelles et aux biches, il n'y a pas de quartier. Et ben votre frère sera dans les champs comme ça, pas de quartier. Voilà. Alors ça, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce que des grands maîtres ont dit, en particulier Rabbi Yoel Tintelbaum, que lui, il a dit que ces massacres-là, qui sont arrivés il y a 80 ans, eh ben, c'était c'était que le Ham Israël se dégageait de ses serments. Voilà. Et que le peuple juif a été en pâture. Comme en pâture, voilà, sans autre forme de procès. Voilà. C'est parce que ça, c'est pas la littérature, c'est pas de la poésie. Voilà, bien que le verset.
C'est pas un avis là. Comment? Il dit moi je vais dire. C'est une névoie qui fait là.
Rabbi Lazar dit, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une névoie.
Non, il explique. Qu'est-ce que veut dire? Je vous fais jurer, fille de Jérusalem. Ouais. Betsevaot.
Par les armées.
Non, pas de Tsevaot. Tsevaot, Tsevia, c'est les biches.
Ah, d'accord.
Les biches et les gazelles des champs. Oui, les biches et les gazelles des champs. Que n'éveillez pas, etc.
Donc, oui, le rapport entre les biches et les gazelles et un serment, c'est ça. Il faut expliquer le passage.
Non, je fais le serment. Je fais le serment. Que le je prends en gage les biches et les gazelles. Voilà. Que la chair sera en pâture, de la même manière que les biches et les gazelles. Quand tu vas à la chasse, il n'y a pas de quartier, ou il n'y aurait pas de quartier. Votre chair, on la trouvera dans les champs, comme ça, des cadavres. Voilà. Ça, c'était écrit il y a 1700 ans. Hein.
Mais attends, quand Kadosh Baruch Hu décide un Sha'at Hashmad, une Xera, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison, entre guillemets.
Mais HM, parce que tu es un lecteur d'Actuji et que tu es shooté Madame de Saras sur Academ. Oui, on ne peut pas donner des raisons métaphysiques.
Sha'at Hashmad.
Ok, d'accord. J'en sais rien. Voilà. Azoy Shtet, cette Gemara, je m'en fous de l'interprétation, il faut connaître cette Gemara.
Oui, non, c'est vrai qu'elle elle interpelle.
D'accord, c'est tout, point. Je ne dis pas rien de plus. C'est tout. Rien de plus. Le pcha de cette Gemara, c'est Ishbati Etrem. Ça veut dire, je vous fais jurer, fille de Jérusalem, avec les biches et les gazelles. C'est-à-dire que l'enjeu, que si ce n'est pas retenu, ça sera comme des biches et des gazelles. Allez-y, allez, le peuple juif, c'est des biches et des gazelles. Allez-y, tuez-le, tuez-les. Voilà. C'est ça le pchat du verset. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, je m'en fous. Allez, tête. C'est écrit comme ça dans la Gemara. On y va, on continue. Voilà.
C'est chaud la reprise. Hein.
Ok. On continue un peu. Amar Rabbi Elazar, le même Amar Rabbi Elazar. Vos, quoi ?
On a signé. Ah oui,
voilà. Alors, il y a eu un grand travail, effectivement, qui a été fait par Rav Yoel. Il y a un grand travail qui a été fait par Rabbi Yoel Tattelbaum. Le Shalosh Shvuot, sur les trois Shvuot, wow. C'est un livre entier là-dessus.
Bah, il y en a six là maintenant.
Comment ?
Il y a trois.
Trois qui deviennent six.
Bon, les trois. Bon, ouais, ok, d'accord. Mais c'est, le livre s'appelle le Vayoel Moshe, c'est le livre base. C'est un livre très 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 important. D'études, hein. C'est un livre d'études. Et il y a trois parties. Il y a une partie, est-ce que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël ? Deuxième partie, les Shalosh Shevuot. Et troisième partie, c'est quoi la spécificité de la Lashon HaKodesh ?
Voilà. C'est un gros livre ?
Un gros livre. Il n'y a pas d'image. Ok, on continue. On continue. Amar Rabbi Elazar. Koladar Beret Israël, Sharoui Belo Avon. Shenemar, Ubal Yamer, Shachen Khaliti Aam Ayoshevba Naso Avon. Sheken Khaliti Aam Ayoshevba Naso Avon. Celui qui habite en Israël se trouve sans faute. Sharoui Belo Avon. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire que tu vas en Eretz Israël, même si tu ne fais pas les mitzvot, tu es sans faute. Il y en a, vous avez déjà entendu mille fois ça.
On a tellement baigné dedans, là, comme dans l'huile d'olive.
Ouais. D'accord.
Que tout ce qu'on fait alors, en cela reste, c'est moins important. Et que
alors, évidemment, ce n'est pas ça le pshat. Sharoui belo avon, parce qu'on dit Adam, en sadik baret, sa chair yasetov, velo yecheta. C'est impossible. Il n'y a pas des choses que l'homme soit sans imperfection. Le fait d'être en Eretz Israël, ça fait qu'appara de sans imperfection. Mais Chas v'Shalom, si quelqu'un il fait d'Averot, c'est plus grave encore de faire Averot. Regardez,
c'est logique.
Regardez Rabbi Isaï.
C'est dans le palais du roi. Donc c'est...
Regardez le Tosfot ici, extrêmement ou Amar Lehalot. La Mishnah nous dit que si le mari dit d'habiter en Eretz Israël et que la femme n'est pas d'accord ou le contraire, le mari ou celui qui veut habiter en Eretz Israël a gain de cause, d'accord ? C'est la Mishnah. Tosfot ou Omer la'alot. Tosfot. Et non noeg bismanazé. Cette Mishnah ne s'applique pas à notre époque. Dika sakana drachim, parce que c'est un danger d'aller en Eretz Israël. Ve'aya Omer Rabbeinu Chaim. Notre grand-mère, Rabbeinu Chaim, un des balais Tosfot importants, dit « Achshav enu mitzvah ladur b'Eretz Israël. » À notre époque, il n'y a pas mitzvah d'habiter en Eretz Israël. « Qui esh kama mitzvot atyol ba'aretz ve kama onshim d'ananu yacholim nizair ba'em velamod aleem. » Qu'il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent de la terre et les châtiments sont plus graves en Eretz Israël qu'on ne peut pas bien faire attention. Donc il faut être une grande madriga pour habiter en Eretz Israël, et c'est impossible. On n'a pas la force spirituelle pour habiter en Eretz Israël.
Mais c'est un balai Tosfot qui dit ça.
Pourquoi ça t'étonne ?
Ben,
c'est un balai Tosfot, c'est un niveau.
Ouais, c'est un niveau déjà.
Mais lui, il le met par rapport au mitzvot et l'Oued Baharet spécifique.
Non, il y a deux choses.
Je n'ai pas compris.
Il y a mitzvot et l'Oued Baharet, et de plus, il y a mitzvot, jusqu'à même mitzvot et l'Oued Baharet, et Kama Otshim.
Ah, avec un mountain, mais que c'est pas lié à.
Pas forcément lié à tout l'autre bar. Et que c'est faire des mitzvot. Si on fait d'avir au tonnerre de Sred, c'est plus grave.
C'est plus grave.
C'est plus grave.
Ah, donc c'est mes forages. Voilà, c'est faute.
Bon, il y a des livres entiers sur ces sujets, comme vous le savez très bien. On continue. Donc, quand on dit qu'habiter en Eretz Israël, c'est Nasso Avon, ça veut dire que chacun, il a des imperfections. Et que d'être en Eretz Israël, alors, il y en a qui vont dire un peu de manière humour noir, c'est tellement difficile d'habiter en Eretz Israël, il y a tellement, on dit, Shalosh Dvarim, Niknim, Beisurim, trois choses sont acquises avec souffrance, Torah, Eretz Israël, Veolam Haba. Donc, habiter en Eretz Israël, il y a tellement de Yisurim, que si tu t'accroches d'habiter en Eretz Israël, tous ces Yisurim, ça fait capara. Parce que c'est une terre très difficile d'habiter en Eretz Israël. On continue. Amalo Rava le Ravaché, Anan Besovle Chalaim Matinallah. Seconde. Nous, on enseigne ce verset pour ceux qui ont des maladies. Regardez Rashi. Valiamer Sheken Khaliti. Ne dit pas je souffre. Alitrem Lomart Sarni. Ne dit pas je souffre. Qui coulab ne sourit avant. Le fait de souffrir, c'est ça qui t'enlève la faute. Continuons. Amar Ravanan, kol hakavur b'Eretz Israël, keilu kavur tachat hamizbeach. Toute personne qui est entourée en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré sous l'autel. Ketibacha mizbeach adama, taseli v'ketiratam v'chiper anmato amo, que sa terre fait expiation. Oula v'realid avait salik l'Eretz Israël. Oula, il avait l'habitude de monter en Eretz Israël. Donc il faisait la navette entre Babylone et Eretz Israël. Non, nafshe bechutz laretz, il est mort hors d'Israël. Atou va mourmer le Rabbi Lazar. On a dit à Rabbi Lazar que Oula est mort, Chosez. Amar, ant Oula al adamat mea, tamut. Toi, Oula, sur une terre impure, tu vas mourir. Amroulo, arono ba. Amar lehem, eno dome koltato mechem le koltato lachar mita. On dit, mais ya. Son Rabbi Lazar était en Eretz Israël. Donc il lui dit, toi, Oula, t'es mort, Chutz Laaretz. Il lui dit, mais il y a son cercueil qui vient. Il lui dit, ça ne ressemble pas si Eretz Israël le prend quand il est vivant ou le prend après sa mort. Tout ça, c'est célèbre, n'est-ce pas?
Mais il savait à l'époque transférer un cercueil de Bavel à Eretz Israël.
Alors, les poskim, ils disent que comment il faisait, il y a une chouva très importante de... du Noda Biyuda sur Nivou Lamet, sur le fait de dégrader un cadavre. Il y a des gmarotes qui disent, et des chelot et chouvot là-dessus, qu'autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient pour que le corps ne se putréfie pas et ne sente pas mauvais? Ils mettaient de la chaux qui desséchait le corps. Ça, si vous voulez, ça le parcheminait. Il n'y avait plus d'eau, donc il était tout sec. Pouvait l'amener, donc ça pouvait prendre comme 6 mois, et puis voilà, une momie.
Une momie, je crois que c'est différent, parce qu'il vidait, pas momie, une momie, pas il vidait ouais, certains les viscères. Excusez-moi pour l'enregistrement, là. C'est
alors, voilà. Aougavra de Naflale Yevama Bechouza. Cet homme qui a eu une Yevama dans la ville de Chouza'a, Atta le Kamé de Rabbi Hanina. Donc lui, c'était quelqu'un qui habitait en Eretz Israël. Il va voir Rabbi Hanina. Quand vous voyez Rabbi dans la Gemara, c'est qu'il habite en Eretz Israël parce qu'il avait la smicha en Eretz Israël. Hors d'Israël, ils n'avaient plus la smicha. Donc quelqu'un, il a dit, à Bechouza, il y a eu une belle-sœur qui était là-bas. Donc il a dit, est-ce que Maoul et Michal et Yavma, est-ce que je peux descendre à Babylone pour faire le Yiboum? Amarlo, arrive la sakutit, va mettre baro ramakom shargo vo yered rachav. Il dit, ton frère a épousé une goya, que Hachem soit béni qu'il l'a tué. Et toi, tu vas descendre là-bas. C'est pas une koutite, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, une seconde, regardons Alachatet, dans Rambam, Perek et Alachatet. On ne comprend pas. Il a épousé une Goya. Il n'a pas épousé une Goya.
Ou le rapport avec le Yiboum
Non. Il y a un mec qui habite en Eretz Israël.
Et son frère, il a...
Son frère, il est mort. Et la belle-sœur, elle est à Pumbadita.
Et elle est Koutit.
Non,
non. Lui, il est en Israël. Donc,
il le montre. Or, à l'époque, il n'y avait pas Transavia.
Ah ouais.
D'accord. Alors, maintenant, alors, il demande à Rabbi Hanina, qu'est-ce que je fais? Mais si aller là-bas, ça va prendre des années. Il va aller là-bas, il va épouser une femme là-bas, il va s'installer là-bas. Et qu'est-ce que je fais? Mais il y a une mitzvah de Yiboum. Est-ce que je peux aller en Eretz Israël, en Khutzlarez, pour faire Yiboum? Puisqu'on n'a pas le droit, tu habites en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de sortir.
Que le Yiboum.
Alors, il a dit, ton frère a épousé une Goya.
Que... Mais elle n'est pas Goya.
Comment?
Mais elle n'est pas Goya.
Elle n'est pas Goya. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que tu vas aller là-bas, tu vas devenir. Eh ben, c'est comme si tu.
Ça voilà, c'est ça. C'est, tu vas t'installer chez les Goyim. Tu vas. Voilà.
Mais il ne pouvait pas y aller et la ramener? Non, je m'excuse. Hein. Mais on a dit. Pas de polémique, mais il faut juste que je comprenne.
La femme, elle est sous papa, il y a sa maman. Non, mais elle est chez papa, elle est chez maman. Tu crois qu'une bonne femme, elle bouge comme ça?
Est-ce que l'obligation de Yiboum va lever le
voilà, manifestement que non.
Bah non.
Lui, il a dit que non. Alors, regardez, on va pas regarder la suite. Alors, c'est là qu'il dit... Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Keshem Shasur Latzel Meretz Yisrael Babel Kasur Latzel Me Babel Eshar Ratzot. Rabba Ver. Alors, Emmanuel, tu nous as montré Rashi. Le fils Yesham Yeshivot Amar Bitzot Torah Tamid. Donc, c'est un milieu intense de Torah. Intense de Torah. Voilà. Mais ça voudrait dire que.
Donc, c'est conjoncturel.
Le pshat que les Shar Ratzot, mais de Babylone. À Eretz Israël, manifestement, de cet enseignement, oui.
Mais à l'époque, Babylone était plus fort en Torah que
Eretz Israël.
Oui.
Donc alors... même aller en Eretz Israël de Babylone,
ah bah non, Eretz... interdit. D'accord.
Mais non, si, ils vont baisser de niveau en Torah.
Oui, c'est ça.
C'est
pour ça que je dis pourrait.
On ne sait pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Bagdad, le niveau de Torah n'est pas très... Donc d'après cet avis-là, il y aurait...
Rabba et Rav Yosef d'Emrei, regardez. Rabba et Rav Yosef d'Emrei Tarvayou, afilo me pombadita le Bekouvi. Alors c'est Bekouvi.
Ouais, c'est quoi?
Bekouvi. Pombadita, c'était une ville de...
Alors Pombadita, c'était là où le Talmud a été écrit. Aujourd'hui, vous savez bien... Comment s'appelle Pombadita? C'est Fallujah. Là où il y a les guerres, là-bas. Fallujah, c'est Pombadita. Pourquoi? Parce que j'ai lu un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque d'une dame qui s'appelle Myriam Benram, qui a écrit des livres vraiment qui sont très, 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 très intéressants sur les guerres, sur Daesh, etc. Tu as lu?
Un peu, mais...
C'est excellent. Et donc, elle fait tout l'historique des guerres qu'il y a eu à Fallujah. Et elle dit, dans ce livre, elle n'est pas juive, hein, elle dit que Fallujah, en araméen, hein, qui est une des langues parlées là-bas, ça se dit Pombadita.
Ouais.
C'est là-bas que le Talmud a été rédigé. C'est fou quand même. Hein.
Oui, parce que c'est un hasard. Probablement que c'est pas un hasard.
Wow.
Non, c'est en bas, non?
Non, je sais pas. Okay. Qu'une idée.
Non, il
n'y
a pas.
On y va. Alors,
Donc, Afilumim Pombenita, les Vekouvi. Il y a un Rashi.
Les Vekouvi? C'est quoi ça, les Vekouvi?
C'est-à-dire que dès qu'il y a une baisse de niveau, ça sera interdit. En
voilà, fait. C'est-à-dire.
Même au sein du même pays, c'est ça ce que ça veut dire?
Quelqu'un,
il va d'Aix-les-Bains à Limoges, il n'a pas le droit.
D'Aix-les-Bains à Annecy, c'est une catastrophe. Voilà. Ou à Annecy?
Peut-être, non?
Je crois pas. Non, c'est ça.
Ça se saurait. C'est comme, tu sais, t'es en Eretz, moi, quand j'étais là-bas à Bachour. Ah, Tatserfati, Aix-les-Bains. Alors pour la France, c'est excellent.
Ouais, c'est
non, Tagli. Paris, Zalia Tserfat, Ken. Non, Tserfat, c'est excellent.
Oui. Expiation. Oui.
C'est bon.
T'as nous salé Paris. Ah, Paris, Alia Tserfat, Ken. Honoré. Ah, t'as nous salé Bechutzlanetz. Je suis Ben Dod Bechutzlanetz, Ken. Tu me sors le Gildash. Ken.
Pour eux, Strasbourg, c'est l'Allemagne aussi. Hein. C'est un monde.
Allez, va. Alors. Aoudé la femme d'Ida, le Bekouvi, Chamte, il y a un homme. Alors, Bekouvi, je ne sais pas, c'était à côté, mais c'était une ville qui était à côté, mais qui n'avait pas ce niveau spirituel. Un homme est parti de Pumbaita pour aller à Bekouvi, Chamte, Rav Yosef. Rav Yosef, il l'a mis en Idou, il l'a mis en Kherem. Il l'a mis en Kherem.
Ouais, c'était le Dayan.
Ok. Rav Yosef, c'était le Gadol.
Le Kherem, c'est-à-dire c'est quelqu'un, on va l'ostraciser parce qu'il a fait quelque chose de mal, c'est voilà, ça c'est comment ça. On dit excommunié, ouais. Excommunié.
Non, pas non, c'est pas excommunié du tout.
Ah, c'est ostracisé.
Non. C'est un statut. Pendant 30 jours, la personne a comme un endeuillé. Il n'a pas le droit de faire du commerce, il s'assied par terre, il ne met pas de chaussures en cuir, il ne se lave pas, il ne se coupe pas les cheveux. Voilà, c'est ça, c'est un statut juridique très précis.
Il ne fait pas partie du minyan.
Il ne fait pas partie du minyan pendant 30 jours.
C'est pas très sympa.
Mais pas ses téfilis, il ne fait pas sa tefila.
Si, non. Ah bon. Non. Un endeuillé, mais ses téfilis.
Oui, d'accord. Non, ce que je veux dire, il est
un peu mis à l'écart, quoi.
Il est mis complètement à l'écart. Il est mis au banc,
ça,
voilà.
Kherem,
il est banni.
C'est juste
non, tu as plusieurs niveaux.
Spinoza, c'est
non, des... non, mais plus, Spinoza, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est le nidouille. Un nidouille, c'est il est mis au banc pendant un certain temps.
C'est
un nidouille.
Chamté.
Voilà. OK, on s'arrête là dans la Gemara pour le moment. En tout cas, le Maharal dont rapporte intégralement la Gemara. Regardez. Donc, on voit qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. On doit être loyaux. C'est quelque chose de très très important. Et au risque de me répéter, c'est pour ça qu'il y a une centaine d'années ou un peu plus que 100 ans, beaucoup de jeunes juifs étaient comment dire, quand il y a eu les mouvements socialistes, etc., ils supportaient pas cette docilité traditionnaliste qui leur était absolument insupportable. Mais qui est traditionnel.
Non, mais traditionnel. Un point précis. Je ne réalisais pas, quand on dit ne pas se révolter contre la nation, je pensais que ça voulait dire vouloir combattre son propre pays. Mais là, c'est la définition que tu donnes, ce n'est pas ça, c'est plus précis. C'est même combattre le régime du pays.
Oui, le régime du pays.
Parce que quelqu'un qui combat le tsar, il ne veut pas lutter contre la Russie. Il voulait que la Russie tsariste devienne une Russie autrement. Et voilà le diou que je veux faire. Donc même ça, c'est interdit.
Ouais, c'est
combattre le régime en place, c'est interdit.
Le régime en place.
Les Steitel voilà. En Pologne, ils se révoltaient pas contre les Cosaques. Et
voilà, c'est ils baissaient la tête. Et ça, bon, nous, on est ici, on a des droits, on voilà. Est machin, on se rend pas compte. Mais c'était.
Mais tu lis Isaac Bashevis Singer.
C'était insupportable pour les
frères. Ah ouais, les frères Ashkenaz, les frères.
Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, et plus que 100 ans, au 19e, c'est fin du 19e siècle, les jeunes ne se révoltaient contre la tradition parce que c'était, pour eux, c'était un enfermement insupportable.
Parce qu'il y avait un mouvement mondial aussi de libération.
Voilà, c'était insupportable.
Regardez, c'est encore plus insupportable que le refus de...
Là, pour la veillée de Hoshana Rabba, j'ai préparé avec un... J'ai pas eu le temps, parce que bien que le cours a duré 5h30, j'ai pas eu le temps de tout faire. J'avais préparé un passage très important de Rav Shimon Shkop pour le sujet. J'ai entendu parler de Rav Shimon Shkop.
Shiva de Grodno.
Voilà, Rav Shimon Shkop, il y a 80 ans, 90 ans, c'était un des plus grands talmudistes du siècle. Enfin, un des plus grands talmudistes. Et comme tu dis, Emmanuel, c'était le Rosh Yeshiva d'une très grande yeshiva en Lituanie qui s'appelait Grodno. Et il a eu plusieurs enfants, une fille qui s'est mariée avec un gaon, et une des filles de la fille de Rav Shimon Shkop s'est mariée avec un monsieur Aloni, qui est devenu une des très 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 grandes femme politique israélienne qui s'appelle Shulamit Aloni. Vous avez entendu parler de Shulamit Aloni?
Oui. Shulamit Aloni, c'est la petite fille de Rav Shimon Shkop.
Shulamit Aloni, tu regardes sur...
Ah oh, non, c'est pas vrai.
Shulamit Aloni était la petite fille et son père était un gaon. Son père...
Attends, c'est juste la petite fille, quoi. C'est pas c'est 15 générations.
C'est pas seulement que c'était la petite fille.
C'est l'extrême gauche israélienne laïque.
C'est, c'est,
c'est la créatrice de Méretz. Mmh. Oh là là. Et bon, comme j'ai énormément travaillé sur la veillée, j'avais envie un peu de regarder. Je savais que Shulamit Aloni était la petite fille. J'ai regardé en français, il y a très peu, mais regardez en hébreu Shulamit Aloni. Vous mettez Shulamit Aloni sur Google en hébreu. Il y a des lettres de son grand-père à sa petite fille. Et il l'a félicité pour son mariage et tout ça, et machin. Et un des points, mais qui m'a bouleversé, c'est qu'elle allait partir de Biélorussie, là-bas, il y a 90 ans, pour aller en Israël. Elle dit, heureusement que je me suis révolté contre mon éducation et que... on reste dans le gourbi, on reste dans le shtetl qui était complètement pouilleux. Elle dit, heureusement que je suis sorti. Parce que et tous ceux qui sont restés sont morts. Elle dit, mais d'où j'ai eu cette force de me révolter contre mon éducation? Elle dit, heureusement que je me suis révolté contre mon éducation. Comme on dit, Schwer zu sein Yid. C'est dur d'être un juif parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que. On ne sait pas qu'est-ce que. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans l'existence. Des fois, on se trompe. Et c'est sûr qu'elle, c'était la papesse des mécréants. Ouais. Shulamit Aloni.
Militante.
La papesse des mécréants. Mais ils mettent dans beaucoup de textes que, si vous regardez sur Internet, que quand même, elle avait, comme beaucoup des dirigeants israéliens qui sont très, très ambigus, d'un côté, il faut se révolter contre la tradition, et d'un autre côté, ils sont indécrottablement juifs. C'est terrible. Il rapporte qu'elle avait des liens avec son grand-père. Elle dit même qu'elle a grandi chez son grand-père, qui était un... On ne peut pas plus grand. Pour moi, Rav Shimon Shkop, on ne peut pas plus grand dans les dernières générations. Oui,
C'est quand même... ça interpelle.
C'est le but. Hein? C'est le but. Encore autre chose. C'est sûr, non, parce que l'histoire juive, c'est très important. Et nous, c'est important pour mettre en perspective des choses et relativiser des choses, parce que nous, on ne se rend plus compte de qu'est-ce que c'est. C'est sûr que quand on voit cette Gemara, elle nous fait trembler à raison. Et c'est fait pour. Mais peut-être que vous savez qu'il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, un des grands géonimes en Slovaquie qui s'appelait Rav Tertal. Son prénom, je me souviens plus, je crois que c'est Issachar Tertal. Et le Rav Tertal, il était donc... tous les grands maîtres en Hongrie, Slovaquie, ils étaient révoltés par les jeunes qui étaient sionistes et qui enfreignait finalement ce qu'on voit ici. Le Rav Tertal, il a été enfermé dans le ghetto à Budapest. Et dans le ghetto de Budapest, dans la famine, dans les exactions, etc., il a écrit un livre qui s'appelle « Em Abanim Semecha », où il dit, et il est mort là-bas. Il est mort là-bas. Et il dit, on s'est trompé. Ces jeunes-là, ils ont raison. Ces jeunes qui se sont révoltés, en vérité, nous, les vieux, on n'a pas voulu voir qu'en vérité, il y a une dimension de Kdoucha chez ces jeunes et que vouloir aller en Eretz Israël, c'est quelque chose que nous, il fallait qu'on écoute. Et donc, c'est l'inverse total de Rabbi Yoel Tatelbaum, pour faire un tableau exhaustif des problématiques.
Et comment il expliquait le Shelo Yalou Vechoma?
Je ne sais pas. le livre, je l'ai chez moi, le Emma Banim Semecha.
Bon, il doit dire c'est un midrash.
Et je crois que ça vient d'être traduit en français. D'ailleurs.
Il doit dire c'est un midrash.
Ah bon, oui, oui, oui.
C'est pas à la rite.
Mais bon, on parle des cercles très. Voilà.
Mais c'est un livre. J'ai deux livres de Rav.
Ça vient.
Il écrit des Shelot et Tshuvot, très importantes. Et il écrit aussi. On a retrouvé il y a quelques années son journal qui a de captivité là-bas dans les ghettos, qui est magnifique, extraordinaire. Extraordinaire. Mais le M. Abanim Semecha, c'est difficile, c'est pas vraiment un livre d'études, c'est plutôt des midrashim, un cri sur ce qui se passait. Quoi. Ça n'a pas la rigueur du Vayoel Moshe. Ok. Alors regardez, on termine le paragraphe là, et puis voilà. Voilà. Aré Godel Azara chez l'Imrodou Bemalchut. Donc on voit ici, donc c'est là, hein, Rabbi Isaï. Aré Godel Azara. On voit la grande injonction de ne pas se révolter contre les nations du monde. Ad Sheye Chazve Shalom Besara Mefker. Que Chazve Shalom, leur chair serait Efker, abandonnée, comme les biches et les gazelles des champs. Ven Safe Kitam Davarze. Indubitablement la raison. Shachar Sheine Xerat Hashem Ilvara Sheyu Israel Tachat Haumot. Que c'est un décret qu'on soit sous les nations. Lo Eftelu Xerat Hashem Bekoar Sheya Yaze Neged Axera. Donc on ne doit pas annuler ce décret de Dieu par la force contre ce décret. Qui imchit pas le loup al malchut chez Israël chez Tarzor. On doit prier que la royauté d'Israël revienne. Que Moshe tiknu bebracha et semar damim bebracha b'yerushalayim irecha. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le bracha sur les minimes. Nous verrons ça, Bezrat Hashem, dans la suite de notre émission. Si vous le voulez bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, indubitablement, le phénomène du sionisme religieux est une révolte contre le décret d'exil. Maintenant, si on veut être précis aussi, on voit bien que le retour, la déclaration Balfour, personne forçait Lord Balfour de donner l'autorisation de créer un foyer juif en Palestine. Et d'autre part, lorsque les nations ont donné le droit de créer l'État d'Israël, ils n'étaient pas forcés non plus. Donc, il y a eu un accord des nations, ce n'était pas une révolte. C'est vrai qu'il y a eu la guerre d'indépendance en 1948, mais ça a été extrêmement rapide, ces guerres d'indépendance. C'était une petite... C'est vrai, pour nous...
Plusieurs mois, mais...
C'était un petit truc, je veux dire...
Pour l'importance du pays, c'est comme s'il y avait eu des millions de morts. Hein. C'était à l'époque.
Oui,
au niveau,
oui.
Au niveau non, mais humain, pour l'Angleterre, c'était énorme.
Voilà, c'était,
oui, mais pour
c'était,
la Turquie et la Grande Porte et l'Angleterre,
non,
c'était rien pas, du
oui,
tout.
Oui,
pour
oui.
L'Angleterre, c'était des clopinettes. Oui, je veux dire, l'Angleterre, c'était un empire incroyable.
La question, c'est qu'on ne sait pas. Quand on dit qu'on va se révolter contre les nations, est-ce que ce n'est pas contre les Arabes? Le conflit, il dure depuis un siècle. Peut-être que le pchat, c'est... Enfin, on ne sait pas bien.
Bechoma.
Non, pas Bechoma maintenant. La question, c'est se révolter contre les nations. On ne s'est pas révolté contre la société des nations, etc. C'est vrai, puisqu'il y a eu des Balfour. Mais peut-être que...
Mais c'était pas une nation.
C'était pas une nation.
Non.
C'est puisque l'Empire ottoman, il a été dépecé entre l'Allemagne et la France.
Il y avait l'accord Sykes-Picot.
On ne sait pas bien...
Mais lorsqu'il y a eu la déclaration Balfour, même le Meshé Chorma a dit que c'est miraculeux, c'était incroyable.
Ah ouais,
Meshé Chorma. Il en parle dans le Meshé Chorma. Si je ne m'abuse, on sait faire Meshé Chorma. Si je ne m'abuse. Ok.
C'est des gros points.
Non, mais la fin, Bitzvot, Bailot, Asadé, c'est pas un.
Bizarre, Shlomo.
Ouais, et ça change tout.
Le point sur.
Ils disent qu'il est mort en déportation aux Juifs.
Ouais.
Mitzvot Bailot Asadé, c'est
ouais, vrai. Son livre apparaître en français.
Ah d'accord.
Ouais, j'ai entendu que ça.
Traduction apparaître en français. Je l'enregistre.